Merci Aurélie Kiefer.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, nous recevons le plasticien Christian Boltanski, ou plutôt c'est lui qui nous reçoit dans son atelier. À 19h20, affaire en cours, suite à la tribune du Monde concernant les droits culturels, Marie Sorbier demandera ce qu'il recouvre précisément au spécialiste de l'action culturelle Jean-Michel Lucas. À 19h50, une parole d'artiste pour des conseils culturels. Ce soir, la plasticienne Agnès Turnauer. Bonsoir Christian Boltanski.
Bonsoir.
On peut voir en ce moment une exposition de vos œuvres à la galerie Marianne Goodman à Paris, ce qui me donne l'occasion de vous recevoir pour revenir sur votre parcours, vos sources d'inspiration, vos méthodes de travail. On peut revenir vers ce jour, vers 12-13 ans, où tout d'un coup vous modelez une figurine en pâte à modeler et votre frère Luc vous dit « c'est bien ». Qu'est-ce qui s'est passé là pour vous ?
J'étais un enfant un peu différent, même très différent. Je ne supportais pas l'école, et dès qu'on essayait de me mettre dans une école, on me retrouvait dans la rue en train d'hurler. Je dois dire que je n'ai jamais passé aucun examen dans ma vie, même pas le certificat d'études. Et je passais mon temps à regarder par la fenêtre et à compter les voitures. Enfin, mes parents ont eu l'intelligence de ne pas me faire rentrer dans un circuit psychiatrique. Mais disons, j'aurais pu y rentrer. Et puis là, on me dit que j'avais fait une chose bien. Et donc je me dis, enfin, on me dit que j'ai fait une chose bien dans ma vie. Et donc, j'en ai fait mon métier. Et comme j'avais des parents très gentils et qui se sont dit, peut-être c'est sa planche de salut, j'aurais dit, je veux avoir des grandes planches d'Isorelle et je veux peindre sur de l'Isorelle. Et ils m'ont acheté des planches d'Isorelle et j'ai peint beaucoup de tableaux.
300 tableaux, ai-je lu ?
Quelque chose comme ça, oui, énormément de tableaux, parce que j'étais quelqu'un de bizarre, mais extrêmement actif.
Ça, ce sont les années d'adolescence.
Ça commence à partir, disons, oui, de 15 à 20 ans, quoi. Mais je restais beaucoup chez moi, je suis sorti seul dans la rue qu'à 18 ans, mais je passais mes journées à peindre, et à peindre des sujets... En fait, je pense qu'on ne change jamais, que c'était assez proche de ce que je fais aujourd'hui, mais c'était... Les premiers tableaux, étrangement, étaient des sujets religieux, car comme tout bon juif, j'ai fait ma première communion, et comme cadeau, j'avais reçu des livres religieux, mais avec des illustrations de peintres. Et c'était la première fois, pratiquement, où je voyais des tableaux, en tout cas, j'avais des livres d'art chez moi, et qui ont eu une très grande influence sur moi. Donc j'avais fait beaucoup de tableaux sur le massacre des innocents, sur l'Annonciation, des choses comme ça. Et puis après ça, c'est devenu un peu plus personnel, voilà. Et un peu moins religieux, ou directement religieux.
Mais ces tableaux-là, Christian Boltanski, comme vous le ferez souvent par la suite, est-ce que vous les avez tous détruits, ou est-ce que vous en avez gardé certains ?
Alors, la vie est toujours très étrange. Je peignais chez mes parents dans une chambre, et quand mes parents sont morts et que mon frère a repris l'appartement, il a dit « qu'est-ce qu'on fait de toutes ces plaques de bois ?» Et j'ai dit « tu les casses en deux, tu les mets à la poubelle, dans la rue ». C'est ce qu'il a fait, et il en reste extrêmement peu. Je crois que j'en ai deux par hasard, et il y en a un qui est au Centre Pompidou, parce que je l'avais montré au cinéma Laurent Nag en mai 68. Et ma première exposition était le 3 mai 68. Et là, naturellement, l'exposition ferme au bout de deux jours. J'étais furieux contre mai 68. Le Ranag est devenu l'endroit qui était la salle de réunion des journalistes de l'ORTF. Et par hasard, il y avait une femme, Madame Gauthier, qui était journaliste de l'RTF et dont le mari était un très bon conservateur qui préparait le Centre Pompidou. Et elle lui dit, il y a vraiment une exposition extraordinaire, faut que tu vois ça et tout ça. Il y va, les tableaux lui plaisent, il en achète un pour le Centre Pompidou, qui n'existait pas encore. Et donc, ce tableau, qui était à l'exposition que je viens de faire, a été sauvé grâce à mai 68. Sinon, il aurait été détruit comme les autres.
À propos de musées, on reviendra vers le Centre Pompidou tout à l'heure, Christian Boltanski, vous n'avez pas eu, vous l'avez dit, de formation scolaire ou artistique, si ce n'est peut-être par l'intermédiaire, encore une fois, de votre frère Luc, qui notamment vous a amené au Musée de l'Homme. En quoi ce musée-là, il a eu une importance particulière pour vous ?
Le Musée de l'Homme, je parle du vieux Musée de l'Homme, était un endroit extraordinaire, parce qu'il y avait ces énormes vitrines, et dans chaque vitrine, il y avait ce qui restait d'une culture. Donc c'était comme des sortes de tombeaux énormes de cultures disparues, et il y avait à la fois des petits objets incompréhensibles, souvent une vieille photo jolie où on voyait un monsieur faire quelque chose, on ne comprenait pas ce qu'il faisait, et on savait que tout ça était mort, mais que c'était les restes d'une culture. Et évidemment, mes premières œuvres étaient un petit peu inspirées par cela, et c'était des objets que j'avais fabriqués, qui avaient un sens pour moi, mais que quand on les voyait pour les autres, c'était difficile à comprendre, et que je disposais dans des vitrines avec quelques photos personnelles. Et donc tout cela faisait une sorte d'ethnologie de moi-même, en quelque sorte, où seul moi avais les clés pour comprendre ce que je présentais.
Et ce travail-là, Christian Boltanski, il est initié, vous avez parlé de 68, vous dites 69, vous vous rendez compte, vous avez 25 ans, que l'enfance est finie, l'enfance est morte, je reprends vos mots, on porte tous en nous un enfant mort, et c'est ce moment où vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver quelque chose de l'enfance perdue ?
Il y a eu l'impression vraiment d'un temps terminé, et puis finalement j'ai fait ce petit texte et ce petit livre, et dans ce petit texte je dis, il faut lutter contre la mort, je pourrais le signer aujourd'hui. Et j'ai vraiment eu le sentiment de la disparition et en même temps de l'impossibilité. C'est-à-dire que je dis parfois que tout ce que j'ai fait est un ratage total parce que j'ai essayé de sauver, j'ai essayé de lutter contre la mort et naturellement tout ça était impossible. Et c'était annoncé depuis le départ. Et donc, en fait, en essayant de rechercher les traces qui pouvaient rester de mon enfance, d'abord il n'y avait presque plus rien. Il y avait si peu de choses que dans ce petit livre j'en ai fait des faux. Enfin, j'ai montré le lit de mon neveu au lieu que ce soit mon lit. Et j'ai en tout cas compris l'impossibilité d'accomplir ce que je désirais, qui était d'essayer de préserver sa vie, de garder sa vie dans des boîtes, comme je dis, et c'est peut-être pour ça que j'ai utilisé tellement de boîtes de biscuits dans ma vie. Et aussi ce travail que j'ai fait depuis maintenant 10 ans avec David Walsh en Tasmanie, de me filmer constamment, était déjà inscrit dans ce petit texte. C'est-à-dire que lui, il a des milliers d'heures de ma vie qui n'ont aucun espèce d'intérêt. Et en même temps, il y a tous ces disques durs, mais il n'a rien. Il n'a pas mon esprit, il n'a rien. Et puis, il y a tellement d'heures de regard que personne n'aura jamais le temps de les regarder. Et donc, je lui ai proposé qu'après ma mort, on fasse une vitesse extrêmement rapide, défiler à une vitesse de 4000 fois plus grande ou 5000 fois plus grande, et qu'on puisse arrêter de temps en temps, voilà, et que parfois on peut tomber sur moi, et puis c'est tout. Mais sinon, qui est cette vie qui passe à toute vitesse.
Pour revenir au Musée de l'Homme, revenir aussi à Claude Lévi-Strauss, qui a aussi son importance dans la question de la forme, des formes que vont prendre vos premières œuvres. Christian Boltanski, en quoi la pensée ou l'œuvre de Lévi-Strauss vous nourrit à ce moment-là?
Je pense que c'est le fait d'avoir un regard sur des cultures différentes, mais un regard qui n'est ni méprisant et qui les accepte comme si c'était nos voisins. Et finalement, en dehors de Lévi-Strauss, il y a eu quelqu'un de très important pour moi qui a été Harold Zeman et qui avait créé ce terme de mythologie individuelle. Et donc, chez Lévi-Strauss, c'est une sorte de mythologie culturelle, mais qui est vraiment comme une mythologie d'un voisin. Et chez Zeman, c'était l'idée que chaque artiste construit sa propre mythologie. Donc, il y a dans les deux cas cette idée de proximité et de finalement de non-différence, et en tout cas pas un mieux que l'autre. Et finalement, moi, je pense quelque chose, mais c'est vraiment aberrant peut-être de penser cela, c'est que en gros, on sait faire parfaitement ce dont on a besoin de faire. C'est-à-dire que si on regarde les sculptures grecques en marbre, c'est une perfection de technologie invraisemblable. Mais ils n'avaient pas inventé les voitures, parce qu'ils n'avaient pas besoin de voitures, mais qu'ils avaient besoin de faire des sculptures en marbre. Les aborigènes ont une théologie extraordinaire, mais ils savent rien faire de la vie pratique. Et donc je pense que on choisit ce qu'on a envie de faire, et ça on le fait, et on le fait parfaitement bien.
Vos premiers travaux, Claude Lévi-Strauss, sont portés sur les liens de parenté. Pourquoi ?
Parce que dans les sociétés qui étudient les ethnologues, la parenté constitue, je dirais, l'armature même du groupe social. Ou bien on est parent, ou bien on est un étranger. Et donc à l'intérieur du groupe, tout le monde est parent. Et ces sociétés, aussi étranges que ça puisse nous paraître, ont des règles de mariage qui peuvent être d'une complication extrême pour choisir, puisque tout le monde est parent, on se marie entre parents, mais pour choisir parmi les parents ceux avec qui on a le droit ou l'obligation, ou bien au contraire, on n'a pas le droit de s'épouser. Alors il y a là toute une espèce de mécanique, toute une géométrie des rapports sociaux, qui est la façon dont on peut aborder les sociétés humaines, une des façons dont on peut aborder les sociétés humaines, pour comprendre comment elles fonctionnent. Car chez nous aussi, il y a des règles, il y a des parents proches que nous n'avons pas le droit d'épouser, à part ça, nous en remettons à des mécanismes de hasard, mais dans toute société, il est clair que les règles du mariage ont pour objet d'empêcher les familles en tant qu'unité biologique de rester closes, de se refermer sur elles-mêmes et de substituer ce qu'on pourrait appeler des liens sociaux, car les liens d'alliance sont des liens sociaux, aux liens purement biologiques de filiation.
Lévi-Strauss, c'est quand même aussi les travaux sur la famille. Et bon, la famille Boltanski, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure pour évoquer votre œuvre monumentale dans un deuxième temps. Mais la famille Boltanski, il y a cette histoire familiale, votre père qui passe une bonne part de l'occupation sous le plancher de l'appartement familial, le fait que les enfants dorment autour du lit des parents, les vacances où on dort à cinq dans la voiture, c'est quand même une famille très particulière. Et il me semble que cette question de la famille, elle vous préoccupe aussi, bah, Christian Boltanski.
Là, nous avions créé une vraie mythologie. Enfin, il y a vraiment eu, en même temps, à l'intérieur d'une vie normale, parisien, beau quartier, avec un père médecin, et en même temps, vu de l'extérieur, tous particuliers, disons. Mais je dois dire que j'ai eu une enfance très heureuse. Et donc, je crois beaucoup que on peut être différent et heureux, et que ce qui compte, c'est d'arriver à tenir, quoi. Je veux dire, d'arriver à tenir même dans la folie. Par exemple, mon père ne sortait pas seul dans la rue, mais je pense pas que ça lui pesait. Je pense qu'il en était heureux. Et donc, il n'y a pas de normalité, disons.
L'année dernière, votre exposition au Centre Pompidou a accueilli son visiteur avec la vidéo de L'homme qui tousse. Vous avez pourtant réalisé peu de vidéos. On va surtout parler de Fausto dans un instant. Pourquoi ce choix ?
L'homme qui tousse, il y avait donc juste à l'entrée ce tableau d'un, qui est le tableau sauvé, grâce à mai 68, d'un homme dans une chambre enfermée. Et L'homme qui tousse était aussi le premier film que j'avais fait, peut-être un an après. Et ces deux œuvres se ressemblaient. Et L'homme qui tousse, aujourd'hui, pour moi, j'étais très très jeune, est un film un peu d'adolescence, mais disons, il marque le début de quelque chose. Et puis, c'est le début de la... Le travail, à la fin, n'est pas très joyeux. Et ce film est déjà une sorte de vision d'horreur d'un homme enfermé qui est en train de cracher son sang. Et donc, il est aussi précurseur... Disons, on ne change pas. C'est-à-dire, moi, je crois, en tout cas, pour moi, c'est que je répète toujours la même chose et que je fais toujours la même chose, mais on le fait... C'est comme si on fait un voyage et qu'on peut raconter ce voyage de manière différente. Et donc, tout ça, c'est le même point de départ, mais on peut regarder ce même point de départ de manière différente. Et donc, effectivement, déjà, là, entre ce film qui doit être avant le petit livre, où il y a ce texte qui est vraiment précurseur, est déjà un peu la même chose. Et tout ça, il n'y a qu'une seule œuvre, quoi. Il n'y a qu'une seule œuvre et il y a... Et pour moi, de toute façon, ça, je crois que c'est comme ça pour presque tous les artistes, il y a un trauma de départ, et après ça, toute sa vie, on va essayer de parler de ce trauma ou de s'en guérir.
Nous allons poursuivre notre conversation dans quelques minutes avec Christian Boltanski, mais auparavant, comme chaque soir, on retrouve Marie Sorbier pour Affaires en cours. Bonsoir Marie.
Bonsoir Arnaud. Le 1er janvier, le ministère de la Culture a créé une délégation visant à garantir l'accès de tous à la culture, je cite, « dans le respect des droits culturels ». Mais que sont-ils ces droits culturels ? En se penchant sur cette notion, on s'aperçoit vite de sa richesse, pour ne pas dire de sa complexité, mais aussi de son importance capitale. Pour y voir plus clair, nous sommes ce soir avec Jean-Michel Lucas. Vous êtes expert en droit culturel et vous avez travaillé de nombreuses années sur cette notion. Et il me semble qu'il faut commencer par un éclaircissement. Pourriez-vous nous raconter d'où viennent ces droits et quels sont par exemple leurs liens avec la Déclaration des droits de l'homme ?
Sur l'origine, c'est tout à fait clair. C'est la réflexion faite après la guerre, après donc la barbarie nazie, qui est faite au niveau des droits humains. Et le professeur Cassin, ayant bien observé que durant la barbarie nazie, les Juifs étaient interdits par décret de participer à la vie culturelle allemande, du Reich, puisque c'est ça l'expression, a décidé, a demandé, a négocié avec tous les autres partis d'inclure un droit de chacun de prendre part à la vie culturelle. Voilà, c'est comme ça que c'est rentré. C'est l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc, il faut bien le comprendre comme un droit humain, mais alors exactement dans la même valeur que les autres. C'est un droit humain qui est indissociable des autres. C'est pas un secteur culturel. C'est quelque chose qui renvoie au même droit que d'aller et venir, le droit de choisir sa religion, le droit effectivement d'avoir un logement décent. C'est vraiment quelque chose qui ne peut pas se dissocier des autres droits humains fondamentaux. Donc, dans une démocratie comme la nôtre, passer à côté des droits culturels, c'est passer à côté des droits humains fondamentaux de 1948. Ça fait toujours un peu bizarre, quoi.
Et justement, alors comment ces droits culturels, ils sont intégrés dans notre loi française ?
Bon. On est quelques-uns à avoir milité pour l'intégrer. On l'a pas intégré sur le fond, on l'a intégré sur la forme, parce que effectivement, aucune loi française ne peut déroger aux engagements de la France dans les conventions internationales. Le gouvernement n'était pas d'accord, les acteurs sociaux n'étaient pas d'accord, les oppositions n'étaient pas d'accord, personne n'était d'accord, sauf qu'à un moment donné, les juristes sont mis dans la partie en disant « mais non, on a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes de 66, donc on est obligé ». Donc maintenant, on a la notion de droit culturel, mais sans la compréhension de ce que ça veut dire, simplement formellement. Et donc, on est devant un drôle de situation où les droits culturels sont partout parce que on est une démocratie, un état de droit, et sont nulle part parce que la plupart des acteurs pensent que la culture, c'est les arts, et que par conséquent, on s'arrête là. C'est acteurs culturels. C'est un peu un non-sens pour les droits humains fondamentaux, pour les droits culturels, de dire qu'il y a des acteurs culturels, donc il y en a qui n'en seraient pas. Non, il y a des acteurs de l'art, mais la culture, elle appartient à chacun d'entre nous. Nous sommes tous des êtres de culture.
Alors, en effet, c'est une notion riche et complexe, mais est-ce que vous pourriez quand même essayer de nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste concrètement ces droits culturels?
Au début, en 47, quand Cassin inclut les droits culturels, c'est le droit de participer à la vie culturelle au sens de Malraux, on dirait. C'est le droit de pouvoir accéder au théâtre, à la littérature, etc. Et tout le monde est à peu près d'accord. Mais entre 48 et 2001, il se passe plein de luttes, on peut dire de combats. C'est pas des affaires de juristes, c'est des affaires de combats. Alors, vous avez les Césaire, des Sandor, des Fanon, des Glissant, moi, c'est celui que j'aime bien, mais il y en a plein d'autres qui commencent à dire, non, attendez, il n'y a pas que vos références aux Lumières, à vos œuvres capitales de l'humanité, comme on dit au ministère, il y a aussi toutes nos cultures qui ont été éradiquées, qui ont été transformées, qui ont été folklorisées, et nous sommes pourtant des êtres humains. Et donc, par conséquent, les droits culturels, c'est le droit aussi à ce que notre façon de voir le monde, voilà, c'est ça, toutes les manières qu'on a de symboliser ou de réaliser le monde doivent être prises en compte comme des éléments de l'humanité. Et donc, concrètement, c'est 2001, c'est la Déclaration universelle sur la diversité culturelle. Si on veut parler d'humanité, il faut considérer qu'elle est faite de la diversité de toutes les cultures, de toutes les personnes qui peuvent être considérées comme libres et dignes. Voilà. Et concrètement, c'est être attentif à la culture de l'autre pour faire humanité ensemble. Ça, c'est l'expression qu'on utilise souvent. La culture, c'est lorsque j'exprime mon humanité aux autres, et à faire une politique culturelle, c'est une politique qui permet de faire humanité avec les autres. Concrètement, c'est formidable parce que ça veut dire qu'au lieu de penser simplement à combien de spectacles, combien de spectateurs, quel est le chiffre d'affaires, quel est le montant, l'appel d'offres le moins cher possible, la question c'est la relation d'humanité. Donc celui qui se présente sur le terrain de la culture doit être attentif à comment s'est construite la relation. Ah ben, pas seulement en payant un billet, en rentrant dans la salle, en applaudissant. Une relation de personne à personne, c'est bien plus compliqué que ça. Donc concrètement, c'est tout ce travail de mise en relation avec le regard des droits culturels, avec les lunettes des droits culturels, c'est ce travail de mise en relation qui est déjà culturel avant même qu'on ait mis les pieds au théâtre ou dans une salle d'exposition. C'est le moment où on essaye de retrouver les relations d'humanité.
Qui est engagé dans la mise en place et le respect des droits culturels? L'État, les communautés de communes, les artistes?
Là, vraiment, c'est une affaire de chaque personne. Chaque personne est contributeur de l'humanité des autres. Donc, qui a une responsabilité publique? Chacun d'entre nous, avec nos voisins, avec nos amis, dans nos réseaux de relations. Est-ce que on est attentif à l'humanité des autres? En gros, c'est est-ce qu'on est attentif à la liberté de parole ou à la liberté d'expression ou à la liberté de déplacement des autres? Est-ce qu'on est bien certain que la relation est une relation de dignité? Ou est-ce que on a poussé quelqu'un un peu à l'extérieur? Est-ce qu'on n'a pas un peu interdit de parler? L'enjeu de dignité est tout le temps présent, l'enjeu de liberté aussi. Alors évidemment, la responsabilité, elle est forte au niveau collectivité territoriale, au niveau de l'État, au niveau international. On a tous apporté cette responsabilité de la relation d'humanité avec les autres. Et c'est pas forcément par rapport aux arts. Ça peut être la cuisine, ça peut être les habits, ça peut être la manière de travailler. Faire humanité ensemble, faire culture ensemble, c'est effectivement faire en sorte que l'autre soit un peu plus humain. Ben voilà, on fait ça tous les jours, c'est très concret. Hein. Si vous bousculez quelqu'un dans la rue, faites pas humanité avec cette personne-là. Donc c'est l'attention aux autres, quoi. C'est la reconnaissance des autres, pour reprendre l'expression d'Axel Honneth, qui est la plus pertinente par rapport aux droits humains fondamentaux.
Dans la tribune parue dans Le Monde il y a quelques jours, il est dit qu'en fait, pour être respectueux de ces droits culturels, il faut prendre en compte la participation du public dans la culture. Qu'est-ce que vous en pensez de ce renversement?
Moi, je pense que c'est la crainte que les milieux professionnels ont eue quand on a commencé à discuter des droits culturels, c'est celle-là. Et la première fois, j'en ai parlé à un ensemble de personnes, des DRAC ou du Syndéac ou des compagnies labellisées. J'ai entendu un cri, c'était un sous-directeur de DRAC, pour vous dire que c'est assez grave, qui a dit « Monsieur Lucas, avec vos droits culturels, c'est l'opérette à la place de l'opéra ». Ça m'a complètement bouleversé, parce que c'est absolument tout le contraire, quoi. La question, c'est pas le public, c'est la personne. Donc la question, c'est est-ce que la personne a choisi d'être publique et de participer? Ben oui, il faut faire une place dans ces cas-là. Mais moi, quand je vais à l'opéra, je suis un public, je ne demande pas à participer, je demande juste à prendre du plaisir en tant que personne. Donc la question, c'est à quel endroit et comment la politique publique permet aux personnes de se positionner? Est-ce que je veux faire des ateliers d'amateurs? Est-ce que le créateur veut effectivement travailler avec d'autres personnes? Ou est-ce qu'il ne veut pas, etc. Tout ça, ça se négocie, et cet enjeu de négociation qui est important, et pas de nous dire les personnes, enfin les spectateurs vont prendre le pouvoir sur la programmation. Non, ça se négocie, Je suis en train de travailler avec une compagnie qui s'appelle l'île de la Tortue et qui, avec des femmes des quartiers prioritaires, vous voyez, la pesanteur, les a amenées au théâtre, à la MC 93, etc. Mais quand on regarde bien le projet, c'est pas ça le projet. Le projet, c'est que ces personnes-là, ce sont des personnes, voilà. Ça doit être des femmes des quartiers prioritaires, c'est d'abord des personnes. Elles ont négocié avec la compagnie que la compagnie les accompagne, soit une ressource pour elles parce que ça les intéressait, mais elles ne savaient pas comment faire pour effectivement assister à des spectacles et éventuellement programmer même un spectacle pour leurs amis. Et donc, c'est ce temps de négociation où chacun a eu ses responsabilités qui est le temps des droits culturels, les responsabilités, les réciprocités. Ça, c'est le temps des droits culturels. C'est pas qu'elles aient pris la place des sachants. Non, le sachant, heureusement, il est là et il est précieux pour développer les capacités, l'émancipation des personnes.
Merci beaucoup, Jean-Michel Lucas.
Merci, Marie Sorbier.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Nous poursuivons cette émission en compagnie ce soir de Christian Boltanski. Peut-être reprendre avec un choix musical que vous nous avez confié. Depardieu chante Barbara. C'est quel morceau vous préférez?
Mémoire, mémoire, je crois.
Oui. Mémoire. Oh, mémoire. Dans la folie recluse, où j'étais enfermé, ma mémoire en intruse vient de se réveiller. Dans ma vie sans soleil, ma mémoire appareille vers un passé soleil sur fond rouge vermeil. Ma mémoire me diffuse des images confuses et je m'en éblouis et je l'ai reconstruit. Ma mémoire me balance le mal de votre absence. Ce souvenir d'enfer me brûle à cœur ouvert. Mémoire, mémoire d'un autre temps, d'une autre vie, tu me reviens dans l'eau du paysage. Se mire vos visages en mémoire des aubes pâles, des matins pâles. Tu me fais mal, mais tu me ramènes doucement ma vie recommencée. Oh, oh, mémoire, au bout de mes doigts, j'entends et je vois l'image d'un paysage dévasté. Comment ai-je pu quitter ce que j'ai tant aimé? Mémoire, tu me reviens. Oh mémoire, tout me revient.
Qu'est-ce qui vous touche, Christian Boltanski, dans cette interprétation de Barbara par Gérard Depardieu?
Gérard Depardieu est un homme extraordinaire. Et là, cet homme qui est tout de même énorme, énorme et énorme en tous les sens du terme, par son physique, mais également par sa boulimie du monde, et de le voir chanter cette chanson si intime, qui avait été chantée par cette voix merveilleuse de Barbara, me semble extrêmement touchant. Ce contraste entre ce monstre, et je dis ça très positivement, et cette douceur du chant me semble une chose extraordinaire. Et extraordinaire de sa part, ce qui prouve une sorte de grande sensibilité de sa part, d'avoir désiré ça parce qu'il l'a vraiment voulu.
Vous avez été le voir en concert?
Non, je sors très peu.
Toujours.
Toujours.
Alors on revient justement peut-être à ce parcours. Avec ces différentes phases, même si vous racontez toujours la même chose, comme vous le dites, Christian Boltanski, il y a quand même, il y a eu ces petits objets, ces petites sculptures qu'on évoquait, et ces reconstitutions d'objets ayant appartenu à Christian Boltanski entre 1948 et 1954. Et puis, il y a eu la photographie. Pierre Bourdieu, qui était l'un des professeurs de votre frère Luc, avait publié en 1965 un livre qui s'intitulait « Un art moyen sur les usages sociaux de la photographie ». Est-ce qu'il fait partie des raisons qui vous ont conduit vers la photo ?
Bon, mon frère avait travaillé à ce livre, il m'en a parlé, je ne l'ai jamais lu naturellement. Et je pense que c'est sans doute pour un certain type de mon activité qui était ce que j'ai appelé des images modèles, mais je pense que la photographie m'a surtout intéressé, et je ne savais pas à l'époque, comme preuve de réalité. C'est un peu ce que j'ai su après que Roland Barthes avait dit, c'est-à-dire que la photo renvoie à la réalité, il y a eu quelqu'un. Ce monsieur a vraiment existé, cette dame était vraiment là. Et donc je pense que j'ai utilisé la photographie comme preuve au réel. Il y a eu. Alors, pour moi, un vêtement usagé, un corps mort, une photographie ou les battements de cœur de quelqu'un, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose qui est une présence qui montre l'absence de la personne. Avec une photographie, rien n'est plus terrible de regarder la photographie de quelqu'un qu'on a aimé et qui est mort, par exemple. On ressent beaucoup plus son absence que sa présence. Et c'est la même chose pour un battement de cœur, ou c'est la même chose pour un vêtement qu'on peut retrouver. Donc il y a toujours cette sorte de présence. Et chez moi, j'ai vraiment des milliers de gens chez moi. J'ai beaucoup de Suisses morts, j'ai 6000 bébés polonais, extrêmement gentils et sages, mais j'ai beaucoup, beaucoup de monde. Mais tous ces gens sont des sortes de preuves d'humanité. Il y a eu. Et de même que les listes de noms, j'ai beaucoup fait de listes de noms, notamment d'ouvriers travaillant dans une usine en Angleterre au XIXe siècle, ou d'artistes qui ont participé à la Biennale de Venise. Tout ça, c'est pour dire, je pense que le nom est très important, par exemple, parce que si on dit John Smith, c'est qu'il y a eu vraiment quelqu'un qui s'appelait John Smith. Et donc, c'est une manière un peu de le faire revivre quelques millièmes de seconde. Et donc, la photo est la même chose. Il y a eu. Ou il y a.
Mais il y a eu, alors pour le coup, différentes façons d'utiliser la photographie chez vous, Christian Boltanski, on se souvient dans une première époque des 62 membres du Club Mickey en 1955, mais aussi l'album de la famille D, famille Durand, qui vous communique ses photographies. Mais ensuite, et là je voudrais y venir à cette, on va dire, deuxième grande phase qui débute lors de l'exposition à la Salpêtrière, qui se situe après la mort de votre père, « Leçon de ténèbres », c'était son titre. On y voyait des monuments et des ombres, pour dire un peu rapidement, les photos étaient toujours là, mais elles étaient d'une part auréolées, si je puis dire, d'ampoules électriques, elles étaient souvent agrandies, elles étaient enfermées dans des cadres en fer un peu rouillé. Il y avait aussi donc les vieilles boîtes de biscuits en fer, étiquetées, datées. Il y avait aussi les ombres à la lueur d'une bougie avec ses petites figurines, des marionnettes. L'un des paradoxes très puissants de cette, on va dire, deuxième phase, Christian Boltanski, c'est que ces pièces-là et ces installations et ces expositions sont très puissantes alors qu'elles recourent à une économie de moyens vraiment minime. Ce sont des objets pauvres que vous utilisez pour un effet très, je parle pour moi, très saisissant.
Je crois justement que l'émotion vient du semi-ratage et de la pauvreté. Du petit bout de bois, comme on disait dans la vitrine du musée de l'Homme. Mais moi, j'ai souvent été très touché dans les églises, je pense aux églises romanes, par exemple, qui sont si dénudées, et une bouteille d'eau avec une fleur qui est posée à un endroit sur un petit autel ou une chose comme ça. Et le fait que cette chose si pauvre qui a cette bouteille d'eau et une fleur unique devient une chose extraordinaire parce qu'on sait que quelqu'un l'a posée là. Et donc elle est chargée de force. Pour la Salpêtrière, moi ce qui m'intéressait, ce que je désirais, c'était que les malades de l'hôpital qui traversaient la chapelle ne puissent pas s'apercevoir qu'il y avait une exposition. Qu'ils puissent penser qu'on préparait peut-être une fête, mais qu'ils ne puissent pas voir que c'était une exposition d'art contemporain. Et j'ai pensé que si on voulait toucher des visiteurs, c'était justement qu'ils ne comprennent pas tout de suite que c'était de l'art et de l'art contemporain, parce qu'à ce moment-là, on est rassuré, il y a une étiquette. Ah oui, c'est un artiste post-conceptuel. Et à ce moment-là, on n'est plus touché du tout. Et donc, c'est dans ce petit instant où on ne sait pas trop ce qu'on voit. Et puis, déjà à ce moment-là, cet été, j'étais à Venise, comme souvent, et j'ai revu San Rocco, San Rocco, à l'école, et je me suis dit que c'était ça que j'essayais de faire. Et donc, effectivement, ça me fait rire, parce qu'il n'y a aucun rapport formel entre nous. Mais en même temps, c'est errer dans un lieu et avoir des sortes de sensations, des récits qu'on ne comprend pas très bien. Je dis parfois que ce que j'ai envie quand on voit une de mes expositions, c'est un peu comme quand on rentre dans une église, et puis il y a un monsieur qui lève les bras, il y a de la fumée, il y a de la musique, et on ne comprend pas du tout ce qu'il y a, mais on s'assoit, et puis on reste là un quart d'heure avant de retourner dans la vie. Et je pense que dans les grandes villes, il doit y avoir des lieux comme ça où on puisse s'asseoir. S'asseoir est un peu hors du temps et où des choses se passent vaguement.
Mais à l'opposé de cela, et dans cette même époque, on va dire, il y a eu l'exposition Monumenta au Grand Palais, où là, on ne peut pas être plus fléché. Vous allez voir un artiste contemporain aujourd'hui dans un lieu majestueux. Donc, du coup, comment vous acclimatez de cela ?
Mais pour Monumenta, alors, aujourd'hui, on ne peut pas employer ce mot, c'est art total. Mais c'est un mot qui est très très dur à employer. Mais disons, je désirais qu'on ne soit pas, et c'est toujours resté comme ça, devant quelque chose, mais dans quelque chose. Et effectivement, j'avais demandé de montrer l'exposé en hiver et qu'on coupe le chauffage. Il faisait extrêmement froid, les gens devaient garder leur manteau. Et les visiteurs devenaient presque un objet à l'intérieur de l'exposition. Et puis, il y avait du son. Il y avait cette errance. Donc là encore, ils étaient plongés à l'intérieur d'un endroit où ils avaient presque peine à trouver la sortie. Enfin, c'était une errance. Et pour moi, aussi bien quand j'essaye de faire des petits spectacles avec mes amis ou des expositions, il faut toujours qu'on ne soit pas devant, mais dedans. Et même dans cette exposition au Centre Pompidou, j'ai tout fait, alors que là c'est vraiment marqué musée, art, etc., pour qu'on oublie un tout petit peu, quelques secondes, l'endroit où on était, et qu'on ait comme ça une déambulation à l'intérieur d'un lieu. Mais je m'intéresse beaucoup à l'espace, et quand je peux construire l'espace, j'en suis très très content, et qu'il y ait un endroit plus rétréci, puis on arrive dans une grande salle, et puis qu'il y a un endroit où peut-être qu'il y a une chaise quelque part où on peut s'asseoir. Et finalement, je pense que c'est de créer une œuvre où on est totalement immersé à l'intérieur de l'œuvre. Voilà.
Cette deuxième grande phase, Christian Boltanski, elle est aussi quand même celle d'un retour du refoulé, la Shoah, mais pas tant la Shoah en elle-même d'ailleurs que l'après-Shoah, mais c'est quand même la disparition de vos parents qui permet de vous approcher de cela.
Je pense que quand on perd ses parents, on devient un peu ses parents, et que c'est un des grands moments dans la vie. Enfin, pour moi, j'ai effectivement l'arrivée à l'âge adulte, la perte de mes parents, et puis l'arrivée dans la vieillesse. Il y a des grands moments comme ça qui sont où on reprend. On sait qu'on est le prochain, par exemple, quand on perd ses parents. Et effectivement, cette période a été très importante pour moi. D'abord, elle a été beaucoup plus formelle. Aussi parce que j'étais peut-être plus âgé, et aussi parce que j'ai pu parler des interdits, notamment des interdits de la Shoah, qui, à mon avis, étaient présents depuis toujours, mais que je ne pouvais pas parler de ça. Et j'en ai toujours parlé d'une manière allusive. C'est-à-dire, j'ai beaucoup travaillé sur les Suisses morts, par exemple, et un psychanalyste dirait Suisses morts, Juifs morts, mais c'était des Suisses morts. Et j'avais choisi volontairement les Suisses parce que, justement, ils étaient neutres.
Dans la rubrique nécrologique de journaux, vous preniez les images, les photos.
Les photos dans les nouvelles du Valais, c'était près de Lausanne. Et donc, c'est des gens sans histoire historique. Enfin, c'est des bons Suisses, mais qui n'avaient pas de raison historique de mourir, disons.
Le troisième grand temps, vous l'avez évoqué, Christian Boltanski, vous le datez d'il y a une dizaine d'années quand vous êtes, c'est vous qui le dites, devenu vieux. La question formelle devient, me semble-t-il, encore plus importante dans la mesure même où ce qui vous intéresse désormais est de plus en plus immatériel ou en tout cas éphémère. Il y a quelque chose d'éphémère qui s'est inscrit davantage aujourd'hui.
Oui, alors aujourd'hui, il faut dire que je vais souvent au Japon. Enfin, j'allais souvent au Japon dans le temps d'avant. Et au Japon, les temples sont refaits constamment et les sanctuaires shintoïstes sont détruits tous les 20 ans et refaits exactement à l'identique, ce qui est une chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc, il y a finalement deux manières de transmettre, une manière de transmettre par l'objet et une manière de transmettre par la connaissance. Et dans mon cas, ce qui m'a intéressé, c'était la transmission par la connaissance. Et donc, tout ce que je fais, en gros, est détruit à 80%, mais on peut le refaire. Donc ce n'est plus la sainte relique du petit bout d'os, c'est savoir le refaire ou savoir le réinterpréter, un peu comme des partitions musicales qui sont réincarnées à chaque fois que le pianiste joue un morceau musical. Et donc là, effectivement, il y a eu un temps qui est un temps d'installation généralement beaucoup plus grande, d'objets qui n'ont pas la nécessité d'être conservé, mais qu'on peut réutiliser. Et à chaque fois qu'on le réutilise, on peut le transformer. La pièce dont on parlait, du Grand Palais, personne a été interprété au Japon, en Chine, à New York, à Milan. Je pense pour moi qu'elle était meilleure à Milan qu'ailleurs, mais c'était la même œuvre, il n'y a jamais eu de transport, on la refaisait entièrement, mais forcément, on l'interprétait de manière un tout petit peu différente. Et donc, cette possibilité de refaire, tant que je suis ici, c'est moi qui rejoue, mais quelqu'un d'autre pourra le rejouer après moi, de rejouer l'œuvre est une chose qui m'intéresse beaucoup. Et alors, aujourd'hui, j'en suis arrivé même encore un peu plus loin, c'est-à-dire que dans les dernières œuvres que j'ai pu faire, il y a des choses que personne ne verra jamais, mais il reste le récit. Il reste ce qu'on peut appeler le mythe ou le récit, mais j'aime mieux le mot récit. Par exemple, quand j'ai fait cette pièce qui s'appelle Mysterios, qui était faite en Patagonie, où c'est des énormes trompettes qui appellent des baleines, qui parlent aux baleines, apparemment elles ne sont pas encore tombées, mais elles vont tomber bientôt, et de toute façon personne ne les verra jamais. Mais il restera peut-être, quand mon nom sera oublié, quand tout sera oublié, l'idée que quelqu'un est venu et a parlé aux baleines. Et donc, de même qu'il n'est pas tout à fait nécessaire d'aller dans l'île de Teshima, là où il y a des centaines, enfin maintenant je crois autour de 100 000 de battements de cœur, venant des différents pays, mais c'est devenu un lieu de pèlerinage. Donc les gens qui y vont, ils ne savent pas qui est Boltanski, mais ils savent que là, il y a un lieu de pèlerinage. Et donc c'est finalement, cette sorte de création de récits ou de mythes m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Et peut-être il n'y a même plus besoin de voir, il n'y a plus besoin que de savoir cette histoire.
Ça ne vous empêche pas, Christian Boltanski, d'être dans le monde tel qu'il va mal, et que l'exposition chez Marianne Goodman en témoigne, puisqu'elle est les pièces que l'on peut voir, en tout cas au rez-de-chaussée, pas au sous-sol, sont directement liées à la pandémie mondiale.
Elles ont été faites pendant cette période. Elle ne parle pas tout à fait de ça, puisque ça s'appelle les linges et c'est des masses de linge blanc, mais ça peut évoquer ça. Et puis on est dans une sorte de climat qui fait qu'on a peut-être, sans le vouloir, envie, on se sent que c'est le moment de parler de certaines choses.
On peut enfin parler de la mort.
Alors, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé pendant cette pandémie, c'est que la mort était considérée comme une chose honteuse. Je veux dire, si on perdait quelqu'un de sa famille, il fallait surtout pas avoir un signe noir, il fallait jamais dire qu'on était malheureux. Enfin, c'est une chose qu'on devait cacher. Et on mourait à l'hôpital sans personne. Et là, brusquement, chaque soir, il y a 250 morts, 320. Ah, il n'y en a que 320 aujourd'hui. Hier, il y en avait 402. Et donc, la mort est devenue quelque chose qui est parmi nous, et avec cette crainte constamment de nous-mêmes. alors que nous allons tous mourir. La pièce que j'avais fait, une des pièces que j'avais fait à Venise pendant la Biennale, c'était des grands conteurs avec tous les gens qui naissaient et tous les gens qui mouraient en direct. Et depuis que nous parlons, il y a forcément des milliers de gens qui sont morts. Mais là, c'est annoncé. Et donc, nous vivons dans un monde aujourd'hui très étrange. Alors, moi, j'ai dit une chose toujours, c'est que la guerre n'est pas finie. Alors, il n'y a pas d'après-guerre. Le drame est constant. Alors parfois, il est devant nos yeux, comme en ce moment. Parfois, il se trouve en Afrique. Mais ça ne s'arrête jamais. Donc, on est toujours à l'intérieur de la catastrophe. Et on survit à l'intérieur de la catastrophe.
Et ça, pour le coup, c'est l'une des pièces qu'on peut voir au sous-sol de la galerie Marianne Goodman, qui se présente sous une forme de quatre écrans qui montrent des images sans qualité, dirait l'autre, tout à fait de nature idyllique, sauf que vous y avez inséré, Christian Boltanski, des images subliminales, c'est-à-dire des images qui restent quelques fractions de secondes, oui. Ça dépend, des fois qui sont un peu plus longues. Et là, on a toutes les horreurs de notre temps.
Oui, c'est des calendriers des postes, enfin, c'est des quatre saisons et c'est des sortes d'images clichés que j'ai achetées chez Getty Images. Donc personne ne les a fait. Il y a des milliers de couchers de soleil, on ne sait pas qui les a fait. Donc c'est donc l'image publicitaire par excellence. Et puis à l'intérieur, donc ça c'est la réalité qu'on nous propose. Et à l'intérieur, il y a une autre réalité qui est les horreurs du monde. Et donc il y a, je crois, 200 images de tous les massacres qui ont eu lieu pendant le XXe siècle. Je veux dire, du massacre de Nankin au Rwanda, à la guerre d'Algérie, etc., au Vietnam. Et donc, il y a comme une double réalité. Et quand je faisais cette pièce, je pensais un peu aux images de la Méditerranée avec les palmiers, et puis il y a les migrants qui meurent juste à côté. Et on a les deux images l'un sur l'autre. Donc c'est...
Mais là encore, on peut passer sans rien voir.
Voilà, j'ai beaucoup d'amis qui n'ont passé sans rien voir, ce qui est comme la plupart des gens aussi qui sont en vacances à Nice. On peut passer sans rien voir. Et puis, certaines fois, on peut se dire, mais il y a quelque chose. Et donc, dans la pièce, l'œuvre qui se trouve au rez-de-chaussée, avec donc ces masses de linge blanc, là, il y a des visages qui apparaissent au mur, et qui sont des visages là intimes, qui sont ma propre histoire.
Et qu'on peut à peine voir aussi.
Là aussi, on peut passer sans les voir du tout.
Quand c'est en plein jour, ce qui était mon cas,
on voit pratiquement rien.
Perceptible, là.
Mais si on fait vraiment attention, de temps en temps, c'est comme des apparitions. Vous savez, quand on a perdu quelqu'un, on se promène dans la rue, on dit, tiens, mais c'est un tel, et puis on s'approche, c'est pas un tel. Et donc, là, c'est comme ça. C'est comme des trucs qui durent tellement peu de temps qu'on a l'impression que ces esprits sont là. Et je pense, en tout cas pour moi, que je suis entouré d'esprits et que ces esprits sont là.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Nous allons retrouver Christian Boltanski dans quelques minutes pour conclure ensemble cette émission, mais auparavant, une autre parole d'artiste pour des recommandations culturelles ce soir avec la plasticienne Agnès Turnauer pour ses recommandations. Par quoi souhaitez-vous commencer ?
Eh bien, on peut commencer par ce magnifique livre, ce catalogue qui vient de sortir, qui s'appelle A Life Span Painting de Robert Storr et qui est le plus beau livre que j'ai vu sur cet immense artiste qui est Philippe Guston. Voilà, je n'ai que des superlatifs pour ce livre. Le texte est extraordinaire, il permet vraiment de prendre la mesure de cette traversée, de cette vie de peinture. Il traverse plein de périodes de peinture, dont une période de muraliste, pour arriver à la quintessence de son vocabulaire pictural qu'on connaît, et sous les mots de Robert Storr, qui est un auteur formidable. Voilà, et avec une qualité de reproduction, ce qui fait que le livre est énorme. Je l'ai reçu par la poste, dans un sac, une malle de poste, quasiment. Voilà, et je l'ai porté sur mon dos jusque chez moi. Et quand on le lit, il ne faut pas s'aviser de le lire dans un lit, parce que ça coupe la circulation, littéralement. Mais le corollaire de ça, c'est que je n'ai jamais vu un livre avec des reproductions de cette qualité. Et on a vraiment l'impression d'être dans les tableaux. Voilà. J'ai tous les livres sur Philippe Guston, mais celui-là, c'est vraiment le meilleur.
Bon, alors, il faut quand même apprendre l'anglais. si on veut quand même vraiment le goûter, parce que là, alors on peut se le procurer en France, évidemment, mais il n'y a pour l'instant pas de traduction, et puis bon, il faut effectivement les reins solides d'un éditeur pour pouvoir publier ce type d'ouvrage, et effectivement la langue anglaise, qui est, bon, qui est celle de Robert Sorr, mais qui permet une vaste diffusion, en tout cas, bon, si on peut se mettre à l'anglais, ne serait-ce que pour lire Robert Sorr, pour, en parlant de Philip Guston, Life Spent Painting, une vie passée à peindre. Voilà. Un premier conseil, on met, comme chaque soir, on va mettre les liens de vos conseils, Agnès Turnauer, sur notre page des affaires culturelles. Alors, autre recommandation, autre livre?
Alors, c'est le livre, j'aimerais en recommander plusieurs, de Tiffaine Samoyeau. Là, il s'agit du livre qui s'appelle Traduction et violence, qui est sorti au Seuil il y a quelques mois déjà, et qui est une traversée de la langue sous le prisme de la question de la traduction. Qu'est-ce que la traduction implique comme séparation et comme lien et comme coupure, comme outil de domination aussi? Qu'est-ce que le danger de cette traduction simultanée, globale, et comme appauvrissement des langues? Enfin, il y a elle a fait un travail remarquable qui balaye toutes les à la fois la traduction comme outil, comme danger, et puis le rapport à l'autre qui est évidemment en filigrane de tout ça, c'est-à-dire les questions de sens, d'absolu engagé, de la question de l'échange par rapport à l'équivalence, et le fait que effectivement il y a toujours une tension entre une notion d'hostilité et d'hospitalité dans la langue, et que quelque part une traduction n'est jamais parfaite, et on peut même souhaiter qu'elle reste imparfaite, parce que c'est dans son imperfection qu'elle laisse entendre la voix d'origine. Voilà. Et il y a cette phrase magnifique qui est il y a des phrases qui sont des pays pour moi et que je ne lâche pas. Et dans ce livre de Tiffaine, Traduction et violence, il y a cette phrase qui dit « La langue vers laquelle on va n'est pas habitée de la même manière que celle de laquelle on part ». Donc je trouve que ce livre peut s'acheter uniquement pour cette phrase.
Oui. Voilà. Et aussi peut-être pour une très belle illustration de couverture signée Agnès Turnauer. On peut la voir encore, l'œuvre originale, peut-être quelques jours encore à la galerie Michel Rhin. Bon, je n'en dis pas plus pour laisser le temps quand même rapidement d'un troisième choix signé Agnès Turnauer.
Alors, le troisième choix, c'est aussi un choix totalement inconditionnel, comme les deux précédents. Il s'agit de Clarice Lispector, que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années et dont je suis tombée complètement amoureuse de tous ses écrits, de sa singularité, de sa voix qui est totalement unique, et en particulier d'une nouvelle qui s'appelle « L'œuf et la poule ». Et mes amis savent que je la lis régulièrement à haute voix. C'est un conte extraordinaire qui est dans un recueil qui s'appelle « Corps séparé » aux éditions des femmes, puisque c'est les éditions qui ont publié tous ses écrits. Voilà, c'est une merveille, comme beaucoup de nouvelles de Clarice Lispector, mais celle-là en particulier est extraordinaire.
Et comme toujours, je cite les traductrices et traducteurs, en l'occurrence ces nouvelles sont traduites du brésilien par Teresa et Jacques Thierryau. Merci beaucoup Agnès Turnauer pour ces bons conseils.
Merci à vous, Arnaud Laporte.
Une dernière question, peut-être Christian Boltanski, pour un quatrième temps de votre œuvre, qui sera celui d'après votre mort. Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure dans l'entretien, mais comment est-ce que vous l'envisagez, cet après, qui est le titre de l'exposition chez Marianne Goodman d'ailleurs?
Je m'intéresse beaucoup à la transmission. Je pense que c'est la seule manière, si on veut, de survivre, c'est de transmettre. Mais en même temps, je crois dans mon cas, peut-être que tout ça finira dans la poubelle, mais que si ça intéresse quelqu'un, il faudra qu'il le réinterprète, qu'il interprète. Et je pense qu'il y a une sorte de beauté de... Je pense que la chose merveilleuse de la musique, c'est qu'à chaque fois, elle est réincarnée par celui qui joue. Et donc j'espère qu'on dira une œuvre de Boltanski interprétée par Madame Machin. Et après ça, on dira, Monsieur Truc l'avait mieux interprétée. Mais que ce soit comme ça et que finalement elle se modifie, qu'elle se transforme, qu'elle se mélange, qu'elle a une sorte de vie sans moi, rejouée à chaque fois par d'autres gens. Et je crois beaucoup, mais ça c'est une chose que tout le monde sait, c'est que c'est le visiteur qui fait l'œuvre, et si quelqu'un me dit que mon œuvre est extrêmement joyeuse, j'en suis ravi. Et que peut-être que plus tard on dira, oh, il a fait une œuvre extraordinairement drôle. Et je souhaite toujours, mais c'est pour ça que je ne suis pas encore mort, c'est que ma dernière œuvre soit comique. Alors j'hésite à la faire parce qu'il faut vraiment que ce soit la dernière. Mais j'admire beaucoup Alain René et je sens une vie merveilleuse d'avoir commencé par ses films tellement sérieux et lourds et d'avoir fini par ses comédies, qui sont des comédies philosophiques, mais tellement merveilleuses.
Merci Christian Boltanski d'avoir été ce soir notre invité. Votre exposition est visible à la galerie Marianne Goodman à Paris jusqu'au 13 mars. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter et podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France. Affaires culturelles, une émission rendue possible grâce à Aïssa Toundoy, Marie Sorbier, Boris Pinault, Hugo Altmaier, Anouk Minaudier et Lucille Comeau. À la prise de son, François Rivalan et Élise Le. Réalisation Alexandre Fougeron. Je vous donne rendez-vous demain à 19h en compagnie de l'auteur de bande dessinée et animateur Guy Delisle, que vous pourrez entendre dès 8h55 dans les matins de France Culture pour répondre à la question « À quoi pensez-vous ?»